Merci Seigneur. Merci Jésus.
Alléluia. Alléluia. Vous m'entendez? Vous savez à quoi on reconnaît un homme spirituel d'un homme pas spirituel qui essaye le micro? Généralement, les pas spirituels, au stade de quoi? Ils vont dire 1, 2, 3. Il ne faut jamais faire ça. Souvenez-vous, il y en a un qui a commencé 1, 2, 3. Il s'appelait David. Il commençait à compter le nom de Dieu. Il s'est fait gicler. Donc, un chrétien, il teste le micro comme ça. Alléluia, Alléluia. Et si ça ne marche pas, il dit Alléluia quand même. Et quand même, Alléluia. Alléluia. Amen. Ah, ce soir, il va prêcher. On est déchaînés. Alléluia. Amen. Bien-aimés, j'ai été content de... Laissez-moi vous raconter. Vous aimez les petites histoires? Allez, deux petites histoires ce soir. Vous savez que la parole de Dieu est une puissance. Et quand elle... Et tu peux prêcher... Ne fais pas ça, Nicolas, quand tu seras pasteur, mais tu peux ouvrir le bouquin n'importe où. Tu commences à prêcher parce que l'Esprit est vie, les miracles se font. Il y a quelques temps en arrière, déjà pas mal d'années, j'étais dans une petite salle à Tizi Ouzou, dans une église qui démarrait même bien, fort. On était tellement serrés. Brigitte était avec moi. Tu étais avec moi, Brigitte, quand c'est passé, oui. Et un voyage sur deux était avec moi. Ce soir, c'est un bon voyage, elle est avec moi. C'est surtout bon pour moi. Et alors, on était tellement serrés, j'étais collé contre le mur. Et j'avais des mamans kabyles assises juste devant moi. Et alors oui, c'est pas du tout les femmes émancipées, des fois d'Occident, qu'on voit dans les films ou dans la société. Vraiment, c'est pas du genre à danser le cha-cha-cha et à se déchaîner, tu vois. C'était vraiment très strict. Et alors, je prêchais sur la parole de Dieu. Absolument pas sur la guérison divine, ni quoi que ce soit. D'accord ? C'était l'édification d'église, etc. Et à un moment donné, dans la salle, je vois, il y avait des gros piliers comme ça, mais il y en avait un paquet, donc je voyais pas tout le monde. Je vois que ça saute en l'air dans un coin de la salle. Ah, oh, ça dansait. Bon, moi, je comprends le kabyle, mais surtout sous la torture à ce moment-là. Tu vois, et donc, je ne comprends pas tout ce qui se passe. Mais ils étaient tellement déchaînés. Celle devant moi, ça saute en l'air. Ils se sautent dans les bras. Ils dansaient. Presque, ils me prenaient dans les bras. Bon, il y avait quand même ma femme à côté. Tu vois. Attendez, je suis pasteur quand même. C'est pas un gymnase ici. Hein. Et puis, on découvre. Pendant que je prêche la parole de Dieu, un petit garçon de 12 ans, paralysé de naissance, vient, il est amené là dans le truc, moi je ne le connais pas, il y avait tellement d'enfants, etc., etc. Il saute en l'air, puis il est guéri. Alors je ne te dis pas, la salle était déchaînée. Je rétablis l'ordre comme je peux, on est là pour écouter la très sainte parole de Dieu, mais ils étaient fous de joie, ils dansaient entre eux et tout. Alors là, un bon miracle, ça vaut 10 000 traités, hein, ce évangéliste, ça je te le dis. Et donc, alors on continue. Je continue à prêcher, à peine je continue à prêcher, au bout de quelques minutes, même pas une demi-heure, purée, ça recommence le délire. Tu tcha-tcha-tcha, ils commencent tous à danser, hein, les chaises. Un type, un policier paralysé d'un accident d'auto de tout son côté droit, le gars, 30 ans, 31 ans, il se lève. Et les gars, je peux bouger. En kabyle, bien sûr, moi je comprends toujours rien. Je comprends que la parole de Dieu en français, je te traduis. Et, de miracle. Bon, c'était tellement déchaîné que j'ai dit allez, les gars, il faut arrêter le délire. Tout le monde entier dit vous allez manger tout ça, on reprendra un séminaire à 2 heures, etc. Je vais prier pendant ce temps-là dans une certaine chambre où j'avais une petite chambre dans un appartement. Je priais pour cela. Et puis, je reviens à 2 heures. Et tu sais, des fois, quand tu prêches, tu as la présence d'esprit. Hein. Croyez-moi, on est entre amis ce soir. Pour ceux qui ne sont pas encore pasteurs, ça vous arrivera. Ouais, ça arrive même à des gens très bien. Regardez, c'est arrivé à Alain, c'est Marie qui est arrivée. Maintenant, ça arrive à Nicolas. Hein, donc, hein. Et alors, j'étais là et le Saint-Esprit prend le relais. Tu vas dire des trucs. Les gars croient que tu l'as préparé d'avance, mais tu l'entends en même temps que les autres. Ça paraît incroyable, mais... Et alors, je suis là, et puis d'un seul coup, je regarde tous, ils sortent de repas de ça. Et j'ai dit, et les gars ? Là, j'ai commencé à avoir des problèmes en Algérie. Ne faites pas ça tout de suite dans un pays musulman, conserve tes jours. J'ai dit, et les gars ? Jésus et Mahomet, c'est les mêmes ! Je t'ai demandé de rire, c'est les mêmes ! Purée, tu aurais vu, les gars ? Il a dû passer au soleil. Philippe, qu'est-ce qui arrive à Philippe ? Quoi ? Si, c'est les mêmes, j'étais mort de rire. Si, regardez, Jésus, il y a 2000 ans. Il y avait des journalistes et tout dans la salle, donc pour moi, j'ai commencé à devenir pas célèbre à la une des journaux, il y en avait qui m'en voulaient largement. Jésus, il y a 2000 ans, il guérissait des enfants. Amen. Oui, amen. Il est guéri encore aujourd'hui. Oui, amen. Il est guéri pour l'éternité. Oui, amen. Ça, c'est facile à dire, hein. ça dépend de lui. Quoi. Amen. Et Mahomet, le pauvre chéri, j'ai dit ça, malheureusement, j'aurais dû me taire. Il a regardé son petit garçon de 12 ans mourir. Oui, il les guérit toujours pas aujourd'hui, puisqu'on nous amène les petits arabes malades, et il les guérira jamais. Donc Jésus et Mahomet, c'est les mêmes hier, aujourd'hui, éternellement. Okay, alors là, j'ai commencé à avoir quelques soucis. Mais il faut toujours dire la vérité. Il faut dire la vérité. Les miracles sont là. Ce soir, on va parler des miracles. La parole de Dieu est une puissance. J'aime les musulmans. Je dis ça, je me moque pas. Bon, je suis entre français ici. Je veux pas agresser les gens. je leur lave des pieds. On a construit avec ma chère épouse des dispensaires pour eux. On a donné notre peau, on les a aimés jusqu'à, et croyez-moi, pendant deux ans et demi, ma tête était mise à prix carrément sur la une du journaux. Moi, tu ne m'intimides pas, je reviens avec ma femme et mes gosses. Je vais te faire une conférence de presse. Tu vas montrer comme tu es intelligent, tu vas m'égorger devant 14 caméras de télévision. Tu es d'accord? On va aller jusqu'au bout. Tu vas montrer comme tu es intelligent. Toi, pour ton Dieu, tu es capable de tuer quelqu'un, de tuer un enfant. Et moi, pour le mien, je n'ai pas besoin d'habiller mon enfant comme un Palestinien avec des statues d'explosifs, tu vois, pour montrer comme je suis spirituel. Moi, Dieu m'a tant aimé qu'il a donné le sien d'enfant pour pas que le mien y meure. Je ne t'impose pas mon Disneyland Paris et mon Coca-Cola. Tu ne m'imposes pas tes sourates du Coran et tes djellabas, tu as compris? Alors quand tu vas commencer à parler comme ça, non, certains vont être convaincus, d'autres pas tellement, d'autres ils t'attendent au virage. Tu as intérêt à courir comme la panthère rose, à toute vitesse, en zigzag, à t'entraîner. Mais l'Éternel, tu as besoin de courir. L'Éternel est ta cuirasse, tu as besoin de courir. De toute façon, je connais personne qui court plus vite qu'une balle de 9 mm. Mais je vais arrêter de parler parce que je ne m'adresse pas aux Algériens. Je suis pas par rapport à des Suisses très civilisés. Donc, une bonne nouvelle. Il y a quelques jours en arrière, j'étais dans mon église et je prêche. Quand il dit, je prêche un message tout à fait simple le dimanche. Et il y a des gens qui viennent de partout. Il y en avait qui venaient de Rennes, que je ne connaissais pas, de femmes. Et pour montrer que la parole de Dieu est une puissance. Et ce soir, il va agir avec puissance. J'en suis convaincu. Et pendant que je prêche, je vois que des têtes se tournent, ils se regardent. Est-ce que j'ai choqué? Est-ce que j'ai mal fait? Qu'est-ce que j'ai? Peut-être c'est pas leur sensibilité. Hein, mais ils disent rien, etc., etc. Bon, moi, je continue. Hein. Et puis, ils viennent me voir. Ils viennent me voir à la sortie. Puis, ça commence à aller travailler. Une femme de... Tu me corriges, Brigitte, si je me trompe. On va voir Sophie, elle a quel âge? 50, 45, 40? La quarantaine, et une autre qui est plus âgée, qui était près de la retraite, hein, le 60. Elles sont là, elles entendent l'évangile, mais je dis trop fort rien, c'est même pas un message d'évangélisation, c'est la parole de Dieu. Elle est une puissance pour suivre. Elles sont mûres, écoutez, je fais court, elles sont restées une semaine. Moi, il a fallu que je monte à Paris, j'avais des rendez-vous avec mon fils, à la CNAM et tout ça, et à un moment donné, pendant que je suis dans le train, j'entends, Brigitte était dans une réunion de prière, elle dormait plus, jour et nuit, tellement elles étaient travaillées par cet esprit. Mais alors, une nouvelle naissance, mais alors, à tout casser, hein, transi d'amour pour Jésus. Ça a duré jusqu'à maintenant, je les ai de temps en temps au téléphone, elles ont déjà parlé à toute la famille, les maris, les machins, ils arrivent tous au mois d'août, ils veulent tous plonger dans ce très saint baptistère où tu ressors, tu n'es plus jamais le même. Quand Dieu fait les choses, et j'entends au téléphone, alors je suis dans le TGV, papa, si mon fils m'a tué, papa, bon, alors là, elles sont mûres, elles ne veulent pas repartir d'ici demain matin tant qu'elles ne sont pas baptisées, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, ben selon le saint règlement, non, on peut, le jeudi, on ne baptise pas, on baptise le dimanche, mais bon, ben, tant pis pour les conventions. Ce n'est pas vrai, chez nous, on baptise à toute heure, jour et nuit. Hein. Là, si tu sens que tu es pressé à 2h du matin, viens en baptiser. Mais alors, tu verras les transformations, prêcher la parole de Dieu, croyez que l'Éternel marche avec vous. De temps en temps, il sera encouragé. Elles sont bouleversées, elles sont en train de bouleverser toute leur famille. Amen. Il est vivant. Prêche la parole de Dieu, Dieu fait le reste. Amen. Alors j'ai aimé l'introduction de Nicolas ce soir, pour commencer, et je vais vous raconter quelques périodes de ma vie, et qui a parlé, ça m'a parlé, changer de cap, il a parlé de navire. Et je voudrais vous dire, et je souhaite, puisqu'il va prendre la relève hein, en tant que pasteur, demain on en parlera, vous savez, chaque église locale, c'est comme une embarcation. C'est vrai, et souvent même Jésus a fait appel à Noé, hein, Noé qui a construit une arche hein, où le rassemblement des sauvés, sa famille était sauvée à ce moment-là, était appelée au salut. Et ils ont traversé toutes les tempêtes et ils sont arrivés jusqu'à l'autre bord, hein, figure du lieu où nous allons être accueillis par Jésus, Noé, Abraham et tous ceux qui nous attendent. Et il a parlé d'embarcation. Mais vous savez, il y a différents types d'embarcations. Il y a des paquebots de croisière. J'ai vu souvent cela. Vous savez, des fois, tu vois des reportages dans le secourisme, j'en ai vu pas mal en montagne comme en mer, où tu vois un bateau qui vient de couler. Alors, généralement, tu vois des gars, ils sont perdus en pleine tempête, avec un gilet de sauvetage, même des marins hein, face à l'océan, ils appellent au secours, et dès qu'un hélico les illumine au projecteur ou qu'un bateau s'approche, tout de suite, ils vont se laisser emporter tout ça. Et vous avez deux types de sauvés. Souvent, on voit des gens qui sont sauvés. Ils arrivent sur le nouveau bateau qui est stable et tout ça. On les comprend facilement. Hein. Et puis tout de suite, ils ont le réflexe. C'est vrai qu'il y a deux catégories de gens. Mais regardez bien, je ne sais pas à quoi c'est lié, mais j'ai observé ça. Ils montent en bateau et tout de suite, bien sûr, ils savent d'où ils sortent. Bien sûr, il y a encore les copains qui sont dans la flotte, hein, mais ils sont tellement en état de choc qu'ils vont s'occuper du bateau. Ah, il y a un salon là. Oh, il est beau le parquet, etc. etc. Et on oublie ceux qui ne sont pas sauvés. Ah ouais. Et pour peu que ça se perdure, on va s'attacher au cuisinier, à celui de la cafétéria qui te paye un petit café brûlant. Il n'y a plus que toi, toi tu viens le centre, et hein, mêlé sauvé. Hein. Et puis, tu as des petits canaux de sauvetage qui ne sont pas des gros paquebots luxueux. Hein. Vous savez, un jour, un ami, je racontais à Alain, il y a quelques temps, un ami me dit, tiens, j'ai pensé à toi, il me connaissait. On s'était élevé à l'école biblique ensemble, il m'a dit, tiens, regarde ce que j'ai trouvé. Et c'était une revue qui nous venait des États-Unis, il y a très bonnes choses aux États-Unis. Hein. Et puis, une revue évangélique. Et puis derrière la page, c'était une croisière qui vous était proposée. Hein, je n'ai rien contre, tant mieux pour ceux qui veulent s'offrir. Hein, où tu voyais des gens bon, un peu dénudés. J'étais bien bon, les McDo, l'excès de McDo, ça fait quand même un peu grossir. Hein, hein. Et puis, c'était marqué « Croisade chrétienne with gospel music ». Et tu voyais le maître d'hôtel avec les langoustes et tout ça. Avec un super orateur dont je tairai le nom. Hein, hein. Oh, moi, j'arrivais d'Algérie et je cherchais à trouver des stacks de couscous pour que les gars ils mangent. Oui, ce gospel music. Non, n'importe quoi. Et puis, tu as des petits canaux de sauvetage. Alors, c'est bien une grande église. Et c'est bien, je vous souhaite tout le confort. Oui, ce gospel music et tout ça. Mais si tu as perdu le pourquoi tu es sur terre, d'aller chercher ceux qui sont perdus, tu passes à côté. Quel atterrissage quand on va arriver en haut, on passe à côté. Le seul, merci Seigneur pour ces excellents locaux et qui vont grandir. Dieu va vous donner encore autre chose. Merci. Mais c'est certain, il va vous donner ce que vous attendez peut-être même plus. Écoutez-moi bien. Ce soir, je vais vous dire des vérités. J'espère que ça ne dérangera personne. Mais le but, ce que vous devez cultiver, toujours garder ce cœur pour ceux qui sont encore dehors, qui ne sont pas encore dans la maison. Parce que Dieu va en attirer un grand nombre. Avant son retour, il va en attirer un grand nombre. Et merci Seigneur pour le confort qu'il nous a donné, mais je ne veux pas m'attacher qu'au confort. Pensez qu'à moi. Hein. On est sur notre paquebot de croisière, entre gens très bien, tous sauvés. On chante des alléluia et tout ça. Tandis hein. Que les non-croyants dehors, les païens. Pff. Non, non, attendez. Il vous a été fait la grâce d'être sauvé avant eux, c'est tout. Hein. C'est une question de timing. Hein. Mais Dieu veut les sauver aussi. Hein. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils pour le monde entier. Hein. Et il faut que cette petite chapelle, si vous trouvez qu'elle est petite, eh bien, elle reste toujours comme un canot de sauvetage où à peine tu es dedans. Déjà, tu vas essayer d'attraper ceux qui sont encore dans la flotte pour les rentrer dedans. Ne perds jamais ce cœur. C'est ce qui va faire tes projets de vie et te faire perdurer par rapport à ce que je vous ai dit hier. Je ne reviens pas à ce que j'ai dit hier. Chemin de vie, chemin de mort. Occupe-toi des projets de vie. Seigneur, je veux ta vie. Et Jésus ne faisait que ça. Il faisait que prêcher, il sauvait les malades, il sauvait les perdus, il guérissait les malades, il chassait les démons. Et non pas comme un jour, quelqu'un qui s'est embrouillé les pinceaux, qui a dit, et ce soir, c'est un jeune, il sortait d'école biblique. C'est une histoire vraie, hein, je vous dis. C'est l'école biblique des Tziganes. Et ce soir, il voulait faire un effet bœuf, tu sais, le chapiteau était plein. Jésus va guérir tous les démons et chasser tous les malades. Là, mince, il avait vu qu'il était jeune. Là, il avait dit, mince, il s'était trompé. Ça démarrait mal, la réunion. Non, ce soir, Jésus veut guérir tous les malades. Amen. Allez, on va ouvrir la parole de Dieu, si vous le voulez bien, ce soir. Et je voudrais vous raconter deux, trois choses qui ont marqué ma vie, si vous le permettez. Changer de cap. Comment je me suis converti? Et pour ceux qui me connaissent, eh bien, je suis désolé, mais je vais quand même revenir dessus. Des choses qui ont marqué ma vie. Je ne suis pas né dans une famille chrétienne et c'est très tard que je me suis posé les mêmes questions que tout le monde, mais d'où je viens, où je vais, dans quelle étagère, et bref, j'étais vraiment sans question. Et alors, certains, pour évacuer leurs questions, mes parents n'étaient pas tellement... Mon père avait une grosse situation, ma mère aussi, on vivait dans les îles, en Nouvelle-Calédonie, partout, en Australie, on était un peu partout. Et donc, on avait la vie de château, hein, comme ceux qui étaient en colonie, Mais je me posais la question, mais attends, mais qu'est-ce que je fais, où je vais, c'est quoi la vie? J'essayais d'en parler à mon père. Mon père m'a expliqué à l'époque qu'un homme normal, il ne se pose pas ces questions-là. Mon père avait une grosse situation, il a fait une grosse carrière. Et donc, bon, d'accord, alors j'avais toujours pas. Alors, un jour, je suis allé voir mon curé. C'était dans un lycée catholique de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie. Et il était gentil, il fumait les mêmes clopes que nous et tout. Et à l'époque, c'était les années 70. J'ai dit, écoute, après la mort, tu peux peut-être me répondre à ça. Il m'a regardé comme ça, je me souviens toujours. Il m'a dit. Tu veux que je te prête ma Suzuki? Il avait une 50 Suzuki. Nous, les gamins, on rêvait tous de faire de la moto, de la Suzuki. Hein. J'ai dit, mais non, mais attends, je voulais savoir ça. Tu veux ma Suzuki? J'ai compris à ce moment-là que lui, le pauvre, il était gentil, mais il ne savait pas plus que moi. Donc peut-être j'étais normal, c'est vrai. Hein. Alors il y avait une grotte au-dessus de chez moi, face à la mer, et je regardais le soir, sur les couchers, je disais, c'était le silence radio total. Mais qu'est-ce qu'on fait sur Terre? Alors je dois faire comme mon papa, métro, boulot, dodo, travailler 8 heures par jour, avoir un gros salaire. Regarder Mireille Mathieu et Guy Lux à la télé le dimanche et me piquer de temps en temps au Beaujolais et puis ciao. C'est ça la vie. Purée, j'ai dit, mais il n'y avait personne capable de. Et alors, j'étais un hyperactif, je suis né prématurément, j'ai du mal à dormir la nuit, j'ai plein de défauts de fabrication qui font que. Qui a dit, oh, la pauvre, sa femme, qui c'est qui a pensé ça? J'ai entendu. Elle est très heureuse, hein, chérie? Bien heureuse. Je rappelle de temps en temps, tu as vu que tu as eu la chance de me trouver. Vraiment, hein. Et donc, je me posais ces questions-là. Et alors, je faisais des tas de choses. Il fallait que je réfléchisse pas trop. Alors, j'ai fait les 20e Jeux du Pacifique Sud. J'ai 14 ans, je nageais comme un poisson. Et j'ai été second aux Jeux Olympiques en 1964, je crois, à Nouméa. J'ai fait second aux 50 mètres nage libre. J'étais vraiment, je nageais tout, hein, bref. Mais après, mon père a été muté, je suis revenu dans les Alpes et je ne connaissais pas la montagne et j'ai découvert la montagne. Et avec la même passion, j'ai attaqué la montagne. Et là, j'ai trouvé vraiment quelque chose qui m'intéressait, qui valait la peine d'être vécu sur Terre. Je n'avais pas encore le sentiment religieux que j'avais. Hein, vous savez, je l'ai dit souvent, je crois que je l'ai dit à quelqu'un hier, vous savez que les montagnards sont quelque part les plus grands mystiques avec les marins de la planète. J'ai mis des années à comprendre ça. Vous êtes d'accord? Vous connaissez? Je vous ai raconté ça déjà, vous? Non? Ça vous intéresse? Je te permets, j'y vais plein pot. On va lire Matthieu après, vous inquiétez pas, parce que je vous connais. Après, vous dire, oh là là, c'est vraiment, qu'est-ce que c'est? On va lire la parole de Dieu après. Regardez bien, hein, je vais à toute vitesse parce que le temps presse. C'est de moi que vous riez comme ça? Mais qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ça? De mon temps, ouais, ça. Ah, bon. Ah oui, c'est vrai. Ils sont suisses à toute vitesse, Philippe. Débraye à fond. Et donc, je vous disais donc que les alpinistes ont quelque part de grands mystiques. J'ai mis longtemps à comprendre ça. Et une fois guide que j'ai compris, pendant durant mon stage de guide là, le Seigneur m'a éclairé. Je rencontre un copain un jour, j'avais fait des bêtises importantes, j'étais un ado sévère, et je rentrais d'Amsterdam où je vivais sur une péniche. J'étais ingouvernable. Mes parents m'avaient laissé la liberté. À l'époque, j'avais des cheveux très très longs, ils sont tous sortis de ma tête, t'as vu, j'en ai plus. J'entrais, je voulais voir si je n'étais pas allé trop loin. Je rencontre un copain qui me dit, il était chef des scouts d'Albertville à ce moment-là. Tu viens, dit, j'ai fait le Mont Blanc, la semaine dernière, super, tu as envie de faire le Mont Blanc? Alors moi, j'aime bien les trucs fous, tu as le Mont Blanc, pourquoi pas, ouais, allez le Mont Blanc. Et je pars. Alors j'avais vu deux films de cow-boys, j'avais pris mon sac scout en cuir, c'est vrai, une petite bouteille de whisky quand même, il paraît que ça réchauffe, c'est une folie, ne buvez jamais du whisky au-dessus de 4000, hein. Tu ne seras plus jamais le même, hein, tu vas voir. Et alors, je pars et je monte. Ah, oh, j'ai été ébloui, la blancheur, j'ai mis. Ça, voilà la première chose de ma vie qui m'intéressait, la montagne. Tu vois, je suis presque arrivé au sommet. Je me suis pris un but, m'a tout cassé. Je dégobillais tout le whisky bu au refuge Valo, je te dis pas, à 4005, et j'étais comme. Mais j'ai vu le sommet, j'étais pas loin, j'étais à 100, 200 mètres. Je suis redescendu. Pour une fois sur Terre, j'avais trouvé quelque chose qui valait la peine d'être vécu, la montagne. Je ne sais pas encore pourquoi. Alors je reviens. C'était le côté mystique en recherche qui est recherché. Quelle est la plus petite? Vous voulez savoir. Bon, je vais vous présenter comme ça. Quelle est la plus petite société humaine constituée? Je vous fais gagner du temps. C'est l'école maternelle. Vous êtes d'accord avec moi? Vous regardez. Ah, il y a des grillons dans cette salle? Non. Non, c'est mon téléphone, je l'arrête, attendez. Je suis resté très près de la nature, vous avez remarqué. Et donc... J'ai mis une affiche comme ça à l'entrée de mon église. Bien que vous risquiez d'entendre l'appel de Dieu dans cette salle, il est très fort probable que ça ne sera pas par votre portable. Prière de l'éteindre. Et alors, je parlais de l'école maternelle. Vous les faites jouer en jeu libre dans la cour de récréation. Vous plantez un arbre au milieu. Et vous les faites jouer en jeu libre. Dedans, vous êtes d'accord avec moi, ils vont jouer, petits garçons, petites filles, tout ça. S'il y a dedans, si tu le regardes, ils ont 2-3 ans. Même pas, ils ont conscience qu'ils sont sur Terre. Encore moins que papa est en train de travailler pour gagner le steak ou leur payer les charges sociales du prochain pull qu'ils vont acheter. D'accord ? C'est l'état de grâce complet. Mais si tu le regardes bien, tu as devant toi le futur médecin, le futur cosmonaute, le futur charcutier, le futur docteur. Tu as le futur curé et le futur pasteur. Tu veux savoir qui est le futur curé et le futur pasteur ? Très simple. Tu laisses jouer en jeu libre. Le premier qui est au sommet de l'arbre, c'est le futur curé et le futur pasteur. Pourquoi ? S'élever de la terre vers le ciel par ses propres efforts. Même un enfant de 3 ans, il sait que quand la sonnette va sonner, il ne peut pas vivre au sommet de l'arbre. Il faudra qu'il redescende. Ça ne sert à rien de monter. Mais c'est en nous. La quête du paradis perdu. M'élever, et il y en a qui sont plus sensibles que d'autres. Et alors, qu'est-ce que fait l'alpiniste ? Très simple. Il va s'élever. L'Immaculée Conception, la blancheur, la pureté, la lumière. Je m'approche du ciel. D'ailleurs, je connais en tant que guide aucun client qui me dit « on va faire Mont Blanc », qui est une voie facile, la voie normale. Quand il arrive au sommet du Mont Blanc, aucun client va te dire, un homme normal va te dire « en fait, c'était super la montagne. Hein. Bon, maintenant, je vais faire du cyclorameur ou je vais faire du cheval. » Non, non. Il te dit « guide, c'est quoi la paroi que je vois là-bas ? Ah, c'est la face nord des Grandes Jurasses. Ah, je vais aller là. » Qu'est-ce qu'il fait ? Il faut que j'augmente les doses. Ben oui, maintenant je sais que je suis capable, il faut que je le mérite mon ciel, il faut que je monte les doses. Et les gars, la bonne nouvelle, c'est que Christ est venu, il a aplani toute haute montagne, d'accord ? Quand il va revenir, il n'y en aura plus. Donc attendez qu'il revienne, il mettra les hautes montagnes sous vos pieds. Pourquoi se fatiguer à transpirer ? Et donc j'étais dans cet état-là. Et le Seigneur m'a laissé gambader là-dessus. Et puis quand il a vu quand même que j'augmentais de plus en plus les doses, j'en ai parlé hier, et qu'avec Béraud, on est en train de passer par-dessus le cadavre de mes camarades plantés dans la glace, hein ? Il a dit, bon, celui-là, il est vraiment fou. Bon. Alors, il a mis quelqu'un sur mon chemin, une grand-mère. On ne fait pas gaffe, faites gaffe les mémés, faites attention les mémés, les jeunes gens. Hein. Et elle m'a étudié, elle a dit, bon, elle est passée un jour chez moi comme ça, c'est une voisine. Et elle a fait, elle me parlait toujours de la Bible, mais la Bible, moi, je cherchais une vérité. Et je ne sais plus qui a parlé ce soir des bouquinistes à Paris, mais alors vraiment, je les connaissais tous. J'étais convaincu depuis tout petit que s'il y avait une vérité qui sortait sur Terre, elle devait sortir d'un livre. Et comme j'étais un petit dormeur, vous verriez la bibliothèque que j'avais. Mais alors là, c'était un truc effroyable. Je lisais. J'ai tout lu. Tintin et Milou, San Antonio, Le Botin, j'ai tout lu. Le livre des morts tibétains, le livre des morts égyptiens, la méthode Kwe, quoi. Faites-le vous-même. Zen, zen, je suis zen. C'était le régime sans zen, tu vois. Je ne te dis pas. Mais je n'étais pas zen du tout. Un léopard, peut-il changer les taches de sa peau ? Tu parles. Le premier qui me faisait une queue de poisson en ville, je sortais avec la manivelle, tu aurais vu le zen. J'étais pas zen. J'essayais d'être zen. J'avais des copains qui grimpaient au Verdon avec moi, ils étaient zen, à coups de pétard. Mais je ne voulais pas taper les pétards. J'avais déjà vu Amsterdam, ils terminaient comme des locs, les gars. Ce n'était pas zen, ce n'était pas ça la solution. Mais t'es où la solution ? Alors un jour, je passe chez moi et je regarde sur une chaise. Oui, la grand-mère, elle a oublié sa Bible. Elle lisait toujours la Bible. Moi, bon, je ne l'ai pas lu, je n'ai pas le temps. Je suis célèbre maintenant, je grimpe et tout, je n'ai pas le temps de dire ça. Et puis, elle parlait des fois avec ses enfants, ses petits-enfants. Et moi, je l'entendais parler, mais... moi, tu m'aurais parlé de Messner, de Béraud, de Martinez. Bon, je pouvais en placer une, mais là, elle te parlait d'Ézéchiel, je ne sais même pas qui c'est ce monsieur, de Job et tout ça. Et je ne voulais pas passer pour un âne. Tu as l'air d'un âne si tu parles d'un sujet que tu ne connais pas. Tu vois. Et alors, j'étais invité à me la fermer, ce qui est un miracle en soi. Tu vois, je ne parlais jamais. Tu vois. Oui, je sais, c'est inimaginable, mais bon, c'était comme ça. Et donc, un jour, je vois cette Bible. Je dis, attends, je vais lui montrer. Elle était maligne, elle m'aimait. Si elle m'avait dit, il faut le lire, je n'aurais pas lu. Elle a fait semblant de l'oublier. Moi, je me suis approché et j'ai vu un livre qui fermait avec une fermeture éclair, comme une braguette. C'est incroyable, j'avais jamais vu ça. Un livre qui... Ça devait être précieux, ce qu'il y a dedans pour le fermer à clé et tout ça. Tu vois, ah oui, c'est bête, jeune fille. C'est bête, un jeune homme, si vous saviez. J'ai dit, attends, ça m'intéresse. Je n'ai pas dit qu'elle avait oublié. Elle ne m'a pas dit qu'elle se trouvait plus qu'elle avait oublié. Et j'ai commencé à le lire en cachette quand même. On a sa fierté d'homme tous les soirs. J'ai commencé page 1, comme tu lis un roman policier. Moi, je n'ai pas de pasteur, je ne connaissais personne. Page 1, Genèse, tout ça. Oh, je suis arrivé dans les chroniques et tout, les fils d'eux. Oh là, j'ai dit, tchut, ça a fumé. De temps en temps, j'avais un rayon de soleil, tu vois. Ma maman m'avait parlé de Noé un peu, tu vois, quand même, tout ça. Proverbe, ça m'a bien plu. Et puis, je suis arrivé à Jésus, les 4 évangiles. À l'époque, je dois partir avec Béraud et Yannick Seigneur, on est en Gaparba éventuellement, etc., etc. Et puis, je suis tombé sur ces lignes. À quoi servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il veut y perdre son âme ? Ouh ! Ça rentrait dans mon cœur comme dans du chou-fleur. Je ne te dis pas. Je dis, ouais, non, bah, attends, d'accord, ouais, je. Ok, et puis celui qui voudra sauver sa vie la perdra. Celui qui la perdra, à cause de moi, la retrouvera. Ouh ! Je dis, ah bon, c'est peut-être vrai. Moi, quelques mois après, ma vie, elle était sauvée. J'étais fonctionnaire de police. Pour être viré, tu sais, en France, il faut faire beaucoup de fautes à la dictée. Au moins 300 fautes sur les 10 lignes. Mais je suis très fort en dictée en plus. J'avais un gros salaire, fonctionnaire. J'étais payé à faire du ski à Val d'Isère toute la semaine et de l'escalade. C'est facile de te donner à Christ quand on n'a rien, t'as remarqué ? Mais quand il va tout te donner, puis il va dire, donne-moi. Donne-moi ça. Écoute, je m'appelle Élisée, c'est mes 12 paires de bœufs, mon entreprise d'agriculture. Alors, s'il te plaît, tu m'appelles quelqu'un d'autre. Pourquoi tu n'appelles pas monsieur Alain Pédéki ? Pourquoi toujours moi ? Donne-moi ça. Il va attendre que tu réussisses. Il va te dire, donne-moi ce que tu aimais. Et moi, j'aimais la montagne. Oh là là, je dis, bon, c'est bien. Bon, j'attendais, je me disais, mais attends, si tu veux vivre comme lui, dans ce monde, si tu dois tendre la joue gauche à celui qui te frappe sur la droite, mais t'es mort, tu vas te faire décapiter avant l'heure. Attendez, pourquoi c'est moi qui vais prendre? C'est toujours moi qui dois mourir, un peu les autres. J'étais là. Hein. Et puis, il a accentué la pression. J'ai grimpé un jour à Grenoble, j'avais ma cour qui me regardait tout ça, je grimpais pas mal fort à ce moment-là. Et je grimpe, regardez comme Dieu a de l'humour, sur un gros caillou dans le centre-ville de Grenoble qui s'appelle le mur des Lamentations. Et 8 mètres de haut, avec des rochers pointus en dessous, tu n'as pas intérêt à te fracasser parce que tu n'es pas encordé. Si jamais tu tombes à plat ventre sur le dos, tu t'en souviens toute ta carrière. Et alors je grimpais, bien sûr, je connaissais par cœur, et presque au sommet du mur des Lamentations, purée, je vole, truc plus mal dingue, pouf, à plat ventre sur le dos, c'est un miracle que je ne me suis pas pété la colonne vertébrale, mais je me suis fait une entorse à tout casser. Au début de la saison d'été, où je devais casser la baraque à Chamonix avec Béraud, etc. etc. J'ai pas de problème. Je suis jamais malade. Je suis tonique. Je suis vraiment un banzaï. J'ai peur de rien. Je vais ça dans 3 jours. Je suis guéri. Bien sûr, je prie pas. Je suis pas encore chrétien, hein, mais je me soigne et tout ça. Rien. Je peux pas même mettre là. Ce jour-là, la grand-mère passe chez moi. Quel hasard. Elle me voit assis sur une chaise. C'était rare, très rare. Hein, avec le, elle me dit qu'est-ce que tu as? Alors moi, je me dis bon, elle est chrétienne, il paraît. Elle va avoir un peu de compassion pour moi. Tu vois, je me suis fracassé quand même. Un peu de pitié pour les blessés, tu vois. Et elle me dit. Ah, elle me dit, tu sais comment le Seigneur il calme ses brebis qui sautent de partout en l'air, ça? Je dis non, je savais pas. De temps en temps, il les prend, il leur pète une jambe. Hein. Oh la compassion, je sais pas. Bonjour la compassion des mémés. Oh non, vraiment, il n'y a même pas de pitié chez les grands-mères, c'est honteux. Bon, elle est partie, je l'ai pas retenue, vous imaginez. Je dis mais qu'est-ce qu'elle me raconte, c'est n'importe quoi. Et elle me laisse quand même un bout de papier en partant. Elle me dit quand on aura marre de galérer, tiens, elle me donne une adresse. Je dis ça, qu'est-ce qu'elle me donne? Elle me dit la solution, elle est là. Une adresse d'église. Non, mais n'importe quoi. Je suis un ancien flic. Alors, il y a tellement de sectes et de trucs de barjots que moi, je veux la coupe de personne. Jamais, je n'irai pas. Je l'ai lu. C'était gravé là. Et là, jour et nuit, une voix intérieure. Tu vas y aller. Je suis resté 3 semaines sur ma chaise. 3 semaines pour une entorse. Je n'arrivais pas à guérir. Je n'avais plus que la Bible à lire chez moi. Et tu vas y aller. Non, je n'irai pas. Tu vas y aller. Non, je n'irai pas. Tu vas y aller. Bon, je faisais ce que je voulais. Et j'ai cru qu'avec Dieu, tu pouvais lutter comme avec tes parents, comme avec l'armée. À l'armée, j'étais payé par l'armée où je m'achète. Je faisais ce que je voulais. Je n'allais pas à l'armée. J'étais en survêtement. Voilà. J'étais dans un état de folie. L'armée, à la fois, me respectait, ne voulait pas me perdre. En 6 jours, j'avais fait face nord de l'Aiguère, face nord du Cervin, face nord du Liscam. J'étais devenu un avion. Je faisais les championnats de France de biathlon. Je faisais tout. Le marathon, je grimpais avec Béraud. Jour et nuit, je faisais plus que ça. Je suis un petit dormeur. Je m'entraînais la nuit. Un folingue grave. J'étais en train de creuser ma tombe avec mes mains et je ne le savais pas, quoi. Parce que l'homme n'est pas fait pour porter la gloire. Et Dieu s'est servi d'une grand-mère pour m'arrêter, quoi. Et enfin, de sa Bible, hein, cette grand-mère inspirée. Les mémés, vous avez encore de la valeur dans cette assemblée. Distribuez des Bibles. Dieu se sert des choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et là, je n'avais plus cette Bible. Tu vas y aller. Non, mais je l'avais lu, je n'avais plus oublié cette adresse. Un dimanche, concrètement, je suis allé là et je me gourre d'adresse. Le Seigneur est bon. Je te promets, Alain. Il y avait 2 églises célèbres, côte à côte. Elle me donne l'adresse d'une et je me retrouve dans l'autre. Dans l'autre, c'était Pierre Truchel, le pasteur. Hein, et je rentre dehors. Bon, je ne sais même pas qu'il y a une heure où tu dois rentrer, tout ça. Je rentre, je me mets au fond. Je vois une salle un peu comme la vôtre. Hein, et puis, les gens, ils priaient, ils parlaient. Moi, je vais toujours respecter la foi des autres quand même. Hein. Je m'étais au fond, je regardais. On m'a dit que la solution à mon problème, elle était là. Et puis voilà que le pasteur il commence à prêcher ses trucs sur un homme perdu, voleur cupide, fanfaron, menteur, orgueilleux depuis la nuit des temps. Hein, ouais, bon, d'accord. Puis un autre que Jésus pouvait rendre meilleur et transformer. Je ne savais pas si la deuxième partie du message était vraie, mais la première, j'ai l'impression que oui, on se reconnaissait un peu quand même. Pourtant, je passais à la télé, j'avais des articles dans Le Monde qui sortaient avec, bon, fallait voir, on est un peu les héros, j'étais interviewé, etc., etc., sur plein de choses, je faisais des cascades de glace en solo, etc. Bon, vraiment, j'étais en train de creuser ma tombe avec mes mains. Et il disait que ce Seigneur pouvait lui donner la paix, la joie, hein, que le monde ne te donne pas, etc., etc. Et bon, je ne savais pas si la deuxième partie du message, elle était vraie, mais je savais que la première, elle était. J'ai rien. Et à un moment, ils se mettent tous à prier. Et bon, je regarde, bon, on m'a dit qu'elle soit là. Moi, je suis comme tu vas au cinéma, j'ai les yeux ouverts, hein. Moi, je ne prie pas, je ne suis pas chrétien. Je les vois, mais j'ai toujours respecté la piété des autres. Et je vois tous baisser la tête, ils parlent à Dieu comme si Dieu était dans la salle. Et à un moment donné, il y a un type devant, que je ne connais pas. C'est la première fois que j'entre dans cette église. Ils sont à peu près 300, 400. Je vais dire, toi, tu es venu ce matin, une parole de connaissance. Je ne sais même pas que c'est une parole de connaissance. Dans cette salle, hein, il y a ça dans ton cœur. Purée, moi, je dis, j'entends ça, je dis, tiens, c'est marrant. Il doit y avoir un montagnard dans la salle. Non, c'était mon église pendant plus de 15 ans. Hein. Il n'y avait pas d'autre montagnard, hein, je vous garantis. Là, hein. Tu dis ça, hein, et tiens, on me dit, à ce moment-là, le Seigneur te dit aujourd'hui, donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Non, attendez, je suis un non-croyant, donne-moi ton cœur. C'est quoi ça? Je comprends quand même ce que ça veut dire. Écoutez, je n'ai pas été trop matérialiste, jamais trop dans ma vie. Pourquoi? Parce qu'on a tous, je n'ai pas le temps de prêcher là-dessus ce soir, mais on a tous l'image de Dieu, des capacités de Dieu, du Père ou du non-Père. Je dis ça avec beaucoup de respect. Il y a trop de grillons chez vous. Hein. Il faut que j'arrête le téléphone, excusez-moi. Et il y a trop de... On a souvent l'image du Père ou du non-Père qu'on a eu. Je dis ça avec beaucoup de respect pour ceux qui n'ont pas choisi leur berceau comme moi et qui sont allés dans une famille où il n'y avait pas de papa. Hein. J'en parlerai à tête reposée avec vous après. Dieu est un vrai père, il est capable de compenser, etc. Vous avez des papas qui sont protecteurs, vous avez des papas carottes, bâtons. Si tu réussis, je t'aime. Ou c'est faux, c'est pas ça. Dieu il t'aime même si tu ne réussis pas dans la vie. Tu n'as pas besoin de réussir pour qu'il t'aime. Tu n'as pas à gagner les faveurs de Dieu. Hein. Et tu as des pères qui ne sont pas des pères, c'est des procréateurs. Un petit chien, il voit la première petite chienne dans la rue, excusez-moi, des exemples osés. Hein. Voilà, ça. Saute à pied joint sur ce téléphone. Et donc, vous avez un petit chien, il va faire des petits shows, il est procréateur, il n'est pas père. Un père, ce n'est pas ça. Je n'ai pas le temps de m'étendre là-dessus ce soir. Et voilà, le Seigneur me disait, donne-moi ton cœur. Jamais. Alors là, moi, jamais. Et j'ai cru que tu pouvais lutter avec des hommes, avec Dieu, comme tu peux lutter avec des hommes. Il va frapper à la porte. Je suis sorti de là, il y avait un truc que je ne comprenais pas, mais je suis rentré chez moi. La petite voix a changé de disque. C'était plus tu vas y aller, c'est tu vas retourner jour et nuit. La deuxième semaine, j'en suis arrivé à un stade, écoutez-moi bien, je ne peux plus éteindre la lumière de ma chambre la nuit. Quand j'éteins la lumière, je vous dis qu'il y a quelqu'un qui me saute dessus, qui veut m'étouffer, m'étrangler. Mais attendez, mais ni je me pique au Beaujolais, ni je fume des pétards, ni que dalle. Je suis un sportif de haut niveau, c'est clair. J'ai peur de rien, j'attaque des parois de 1000 mètres, c'est encore d'être ça, je n'ai pas peur de mourir. Mais ça m'est arrivé soudainement comme ça. Je dis, mais c'est quoi cette salade? Soit je suis en train de devenir fou, soit il y a un problème. Attends, bonjour le héros, la une des journaux et tout ça. Presque un peu plus, on était devant en couverture de Paris Match avec Béraud. Personne ne me voit. Je suis là avec la lumière sur ma main. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe hein? Tu vas retourner. Dimanche d'après, même Philippe, même pasteur, même salle. J'ai dit au Seigneur, le premier qui m'adresse la parole, je fous le camp tellement j'avais peur des sectes. Dieu va t'entendre. Hein. Pendant un mois, personne ne m'a adressé la parole. Tu vas le travail. Et même prophétie, même type, même message, même truchel. Je regardais ce que j'avais lu, tous les livres de l'Obsang, grand pas de ça. Je me dis, peut-être c'est des médiums. Il doit y avoir des fils de cuivre sur les murs et tout. Ah non, c'est vrai. Regardez si on est bouché un peu. Et donc j'étais là. Et puis, j'en pouvais plus. Et à un moment donné, j'ai dit, Seigneur, si c'est dans mon cœur, hein, si ce n'est pas tous des illuminés qui sont là, si vraiment tu es vivant, je te donne mon cœur, je te donne ma vie. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai dit, mais Seigneur, c'est sorti de moi comme ça, spontanément. Mais Seigneur, moi, je te donne du concret. Je veux voir du concret dans ma vie. Écoutez-moi bien, parce que vous aurez votre propre histoire devant Dieu. Et je ne sais pas ce qu'il veut dire. Peut-être qu'il va te dire, tu sais, tu seras un grand missionnaire au Yémen. C'est tout ce que tu as à me dire. Tu sais, peut-être tu vas avoir un don de guérison à tout casser. Tu vas mettre le feu à Kaboul. Non, je rassure tout de suite ton mari, je ne prophétise pas. Là. C'est une parole comme ça. Je ne sais pas ce qu'il va vous dire, mais il va te parler. Il m'a dit, tu veux voir du concret dans ta vie? Mais moi, je vais t'en montrer du concret dans ta vie. Ça, j'ai entendu. Et surtout, soudainement, qu'est-ce qui est arrivé? Je vous dis que je suis sorti de mon corps. Je n'aime pas prêcher sur mes expériences parce qu'après, les gens vont croire que s'ils ne vivent pas les mêmes choses que toi, eux, ça a moins de valeur. Ce n'est pas vrai. Votre histoire a largement autant de valeur que la mienne. Vous êtes aussi précieux pour Christ ce soir, vous, que moi. Il a versé la même quantité de sang pour vous que pour moi. On a simplement des fonctions différentes. Mais tu es un homme de valeur, tu es une jeune fille de valeur, tu es une maman de valeur. Tu n'as pas raté ta vie, tu commences ta vie glorieuse ce soir. Tu la commences ce soir. Et tes enfants avec toi, derrière toi. C'est sûr. Vous ne serez pas délaissé pour compte pour Dieu. Tu ne seras jamais une source d'échec pour ton Dieu. Tu ne seras jamais une source d'échec pour Dieu. Jamais. Il est plus grand que toi. Il est ton père. Il t'aime. Et ton passé, il ne peut pas le changer. Mais ton présent et ton avenir, il est en train de se relever les manches. Tu vois, il va te faire rêver. Il va te faire rire complet. Il est tout puissant. Et là, je suis là et je sors de mon corps comme si j'étais collé au plafond. Écoutez-moi bien, je suis un sportif de haut niveau, vous vous en doutez. Je fume pas, je me drogue pas, je bois pas. Je me suis vu comme tu vois au plat, comme quand tu sors de ton corps, comme ceux peut-être qui ont fumé. Purée, je me suis vu en bas. Écoutez-moi bien. France Info, la télé, tout le monde me dit que je suis pas mal. Je m'applique aussi. Hein. Tout le monde faisait sa petite forme de yoga. Hein. Il lingeait tout ça. On faisait tout ce qu'on pouvait pour être quand même gentil, présentable et tout ça. Hein. On essayait d'être civilisé par ses propres efforts, mais on n'y arrive pas. Hein. Et puis, je me suis vu comme Dieu me voyait. Écoutez-moi bien, tous ici ce soir, même ceux qui n'ont pas fait des grands péchés ou quoi que ce soit. Si vous vous voyez comme Dieu vous voit, je pense qu'on pourrait en mourir de chagrin. Ça a duré quoi les... Pour vous donner une idée, à mon avis, ça a duré quoi 3, 4 dixièmes de seconde. Je pense que, écoutez-moi bien, j'étais noir comme un morceau de charbon. Je vous dis, je partais en enfer. Mais j'étais cuit de chez cuit. Mais moi, le monde, il me disait que j'étais pas mal et tout ça. Purée, j'ai vu la publicité de mensonges qu'est cette société tout entière, le monde de mensonges. J'étais en train de me tuer à petit feu, comme le vaudel que j'avais enjambré, planté dans la glace que je vous ai raconté hier. Et je ne le savais pas. Et puis je suis revenu dans mon corps. Mes yeux ont explosé. Eux, ils en étaient déjà à la prédication. Je me souviens même plus que le pasteur il a prêché ce jour-là. Hein. Ils étaient tous. Il y avait des petites grand-mères devant moi. À l'époque, elles avaient un petit fichu sur la tête. Il y avait des mamans italiennes très très sympas. Et moi, j'étais là, mais je sanglotais. Je me dis, bah, mon vieux, retiens-toi. Un homme, il pleure pas. Hein, je pouvais plus. Ça sortait des torrents de larmes. Hein, et puis j'ai eu à ce moment-là ce sentiment. C'est comme si je fondais avec le carrelage. Je vous dis que je m'enfonçais en terre comme une tache d'huile. Hein. Je fondais. Mais qu'est-ce qui m'arrive ou quoi? Et puis alors, je sanglotais tellement, excusez-moi des détails sauts et grenus, la morve, elle commençait à descendre, mais je n'avais pas de mouchoir, je n'étais jamais enrhumé, tu vois. Alors, hein, ça descendait, c'était vraiment dégueulasse. Hein, hein. Et alors, une mémé pudique, j'avais dit, le premier, sans un mot, tout ça. Une grand-mère se retourne, elle me tend un petit mouchoir en dentelle, j'étais là, tu as vu. Ah non, vraiment. Écoutez, je suis sorti de l'église, j'avais une paix surnaturelle qui m'a envahi, et je vous dis, mais c'est incroyable. La drogue ne peut pas te donner ça, ça ne se vend pas au supermarché, je ne sais pas d'où ça vient. Une paix surnaturelle. Je suis sorti Grenoble, un dimanche du mois de juillet 1980, centre-ville de Grenoble. Il y a le marché, l'estacade où ils vendent des carottes, des poireaux et tout ça, bêtement, tu vois, hein, sous les rails là-bas. Et j'étais près du chandelier maintenant, et je marchais devant, c'était rue des 400 couverts, je marchais devant, une paix surnaturelle, une joie surnaturelle. J'ai envie de taper des mains. Les gars, arrêtez tous. Ils vendent des bêtements, des carottes, des betteraves, des pommes et tout. Moi, c'est un marché. Jésus, il est vivant et tout. Tu vois, ils m'ont mis la camisole de force. J'étais enfermé en voiture. Je suis rentré chez moi. J'ai éteint la lumière pendant 6 jours. Il me parlait. Il disait, bon, maintenant, hein. 6 jours. Pratiquement, je mettais 2 assiettes à table. Je mangeais avec Jésus et tout ça. Mais alors, c'est vraiment... Je ne connaissais rien aux églises évangéliques. Je n'ai jamais entendu parler. Ni au pasteur Truchette. Je ne sais même pas qui c'était. Hein. Il était là. Quand il vient, il transforme ta vie. Alors il a commencé à me dire, bon maintenant ça suffit, tu sèches tes larmes. Tu sèches tes larmes complètement. Et tu arrêtes. C'était pas moi. Moi j'étais sûr que j'étais grillé. Tu ne vogues pas à l'altitude où je voguais sans te faire des ennemis. Tu es dans un monde de compétition méchant. Et alors tu t'en prends des coups, etc. etc. Il dit, ça suffit. Et il me parlait. C'était pas moi qui me parlais, moi je n'avais pas ces idées-là. Il me parlait. Et à partir de là, il m'a dit, tu vas faire ça, 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 ça. Toutes les portes se sont ouvertes. La police nationale m'a contacté. Vous nous intéressez, venez pour obtenir le secours en montagne, etc. etc. Je ne peux pas vous dire tout ce que j'ai vécu à partir de ce moment-là, mais je vais vous en raconter quand même quelques-uns ce soir. Et quelques-unes ce soir d'histoire. Et donc là, il m'a dit, il a transformé ma vie. Cette paix, cette joie qu'il m'a donnée. Cette église est devenue mon église. Le pasteur m'a formé pendant plus de 10-12 ans jusqu'à ce que je sois vraiment au Seigneur et qu'il m'installe lui-même à Dille dans la Drôme comme pasteur. Mais c'était le début. On va lire la parole de Dieu. Vous le voulez ? On peut ? Amen. Allez, Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Alors, regardez. Matthieu, c'est juste avant Apocalypse. Regardez. Ça permet de voir qui lit souvent sa Bible ou pas. J'ai repéré. Matthieu chapitre 13, versets 1 à 9. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque, il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, un semeur sortit pour semer. Vous êtes des semeurs, il n'y a que ça à faire, semer. Il n'a pas dit un semeur, tirer sur les tiges pour faire pousser la récolte plus vite. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux. Et elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre. Seigneur, tu bénis ta parole ce soir. Et je te prie vraiment que ces paroles qui vont être dites puissent tomber dans de la bonne terre. Ici, nombreux, dans de nombreux coins du terrain, qu'elles puissent tomber dans de la bonne terre. Que les cœurs soient préparés par toi. Seigneur, que des ministères se lèvent pour ton service. Je te le demande au nom de Jésus. Des ministères de témoins, des ministères prophétiques, des ministères apostoliques, des ministères pastoraux, des ministères d'évangélistes. Éternel, étends ta main et accorde comme bon te plaira. C'est toi le directeur, le maître d'œuvre. Seigneur, nous te rendons gloire. Tu es le roi. Ce soir, tu t'assujettis des cœurs pour ton service et je te loue de ce que tu vas faire dans la vie des jeunes gens, des jeunes filles, des hommes et des femmes ici présents. Amen. Amen. Que ça tombe dans une bonne terre ce soir. Alors, j'ai commencé à cheminer. Mon pasteur m'a formé, évidemment, et je voudrais vous raconter ce soir trois petites histoires et trois visions qui ont marqué toute ma vie. Je vais à l'école de police à Fos-sur-Mer. Je suis interne, je suis dans mon église le dimanche et la police m'a récupéré. Je dois faire 6 mois à l'école de police avant de rentrer dans le cadre du secours en montagne en tant que guide pour enseigner le secours en montagne. Et puis, je fais du covoiturage avec un jeune homme, un Italien, Deschirol. Notre sœur connaît Deschirol. Et alors, il était non-croyant. Et moi, je me mettais souvent comme à l'arrière de la voiture le dimanche soir pour descendre. On était interne à l'école de police. Je me mettais à l'arrière, on était tous les deux. Lui, il conduisait. Hein. Toujours, il me faisait rire, ce gars, jamais oublié. Il avait un dialecte, il était assez soft. Quelqu'un lui faisait une queue de poisson, il ne mettait pas le clignotant, quoi. Moi, je me serais emballé avec des mots peut-être un peu virils et forts en alcool. Lui, non, c'était quelqu'un le doublé malin. Hypocrite, hypocrite. Toujours, il disait comme ça. Il avait ce mot à la bouche, hypocrite. Je le remonte, hein. Hypocrite. Moi, ça faisait rire, là. Hypocrite. Le gars était policier, hypocrite. Il a failli avoir un carambolage et tout. Hypocrite. C'était imbécile, comment ? Hypocrite, hypocrite. Moi, je riais son sein. Et un jour, pendant qu'il crachait ses hypocrites à tour de bras, moi, je m'endors sur la banquette arrière de la voiture. Et je m'endors et je vais avoir 3 visions successives, mais alors qui ont marqué profondément ma vie. La première, j'entends, je suis comme si j'en mets dans un rêve, j'entends un cliquetis d'armes. Peut-être qu'il y en a qui ont fait le service militaire parmi nous. Hein. Vous savez, quand on faisait des manœuvres, l'adjudant de compagnie t'appelle, tout le monde descend des bâtiments, là, tout le monde prépare ça à 52, les cartouchières, ça fait un bruit métallique un peu. J'avais oublié ce bruit, hein, cliquetis. Là. Et j'entends un bruit comme ça, un bruit d'armes. C'est, hein. Et puis, je lève les yeux comme ça et je vous dis, c'est sûr. Je n'aime pas prêcher après les galeries, les visions. Non, je ne prêche pas sur mes visions, je vous dis ce qui a marqué ma vie. Je vois, comme tu vois à la télé, le globe terrestre. Tu vois, c'est toujours beau à regarder l'espace, hein, vu le globe terrestre. Et je vois un long ruban à côté de ce globe terrestre, mais c'est des armées. Je comprends sans un mot, il n'y a pas une parole. Purée, elles sont en train de descendre sur Terre. Ça vient de très loin du ciel. Ils sont en train d'arriver sur Terre. Je me réveille. Je suis à la fois terrorisé et subjugué. Je n'ai pas rêvé. Je les entendais. Ils sont. Voilà. Prochaine étape, si j'avais continué à rêver ou à avoir cette vision, ils descendaient sur Terre. J'ai la conviction. Les armées du ciel sont en train de se préparer, ils reviennent sur Terre. Mais mon pasteur ne prêchait pas sur le retour de Christ à ce moment-là. Je suis influencé par personne, ni par ce que j'ai entendu à l'église ce matin. Je suis un peu glacé. Je l'ai vu comme si c'était la réalité, comme si j'étais avec eux dans le ciel. Ils sont là, ils sont à 2 doigts de nous, ils sont en train d'arriver, ils reviennent chercher. Les armées du ciel sont en train de se préparer, ils préparent les cartouchères, ils ont rendez-vous avec les armées du monde dans pas longtemps sur le Moyen-Orient. Je suis époustouflé. C'est en 80-81. Je me rendors, et puis d'un seul coup, j'ai une autre vision. Je vois une muraille. Une muraille. Ça peut être comme dans les saints, mais je comprends, la muraille de Jérusalem. Hein. Ça ressemblait à la muraille que j'ai vue à Damas, pour ceux qui sont allés à Damas, en Syrie. Hein. Elle n'est pas très haute. Ah, tu lis les Actes des Apôtres, tu dis Paul descendit par une corde. Ah, toi, tu attends à voir en rappel une paroi de 50 mètres. Non, mais la paroi de Damas, c'est la même, elle n'a jamais été démolie. Mais je te jure, moi, je saute dans le gazon en bas, il y a 8 mètres et tu descends des escalades, c'est du 4, hein, c'est rien. Quoi. Tu vois. Bon, les gars, ils avaient la corde et tout. Bon, à l'époque, il n'y avait pas de chaussons d'escalade. Bon, Paul, tu vois Paul en chaussons d'escalade. Donc, bon, bref. Et donc, je vois une muraille comme ça, en or, mais magnifique, hein, transparent, translucide. Je suis dans un champ de gazon comme ça, c'est devant moi. Tous les 200 mètres à peu près, il y a des gars en robe blanche qui sont collés contre cette muraille. On dirait qu'ils prient ou qu'ils crient. Je vois, je m'approche et je vois qu'ils crient. Ils crient au travers de ce mur. Et je vois au travers du mur ce qu'il y a dedans. il y a comme des escaliers qui descendent, et des foules, une foule entière, mais dense, compacte. Certains, ils sont écrasés, les visages contre cette muraille, ils descendent, et il y a une musique de hard rock. Mais alors, bidon, écoutez, je ne fais pas de la musique, je ne connais rien à la musique, ni au hard rock, ni à Beethoven, ni à rien, donc je ne suis pas influencé, hein, ce n'est pas pour moi. Je vous dis ce que j'ai vu dans cette vision. Une musique comme de hard rock, ça tapait. Hein, et je voyais les autres, ils criaient. Certains, ils devaient crier pour les sauver ou quoi que ce soit. Ils n'entendaient rien, et ils descendaient. Je comprends. C'est le monde entier qui est en train de descendre dans le gouffre de l'enfer. Ils n'entendent plus la voix de la conscience. Certains tapent encore, essayent de les appeler. Peut-être vous en faites partie, j'en sais rien. Pour moi, c'était des anges. C'était un champ de gazon vert. Ça m'a marqué qu'avec toute l'énergie qu'il avait là dépensée, ils n'entendaient plus, ils descendaient. Je me suis réveillé, là je commence à transpirer grave. Ensuite, j'ai une troisième vision. Alors celle-là, elle m'a fracassé. Et je faisais... J'étais donc allongé sur la banquette arrière. À ce moment-là, je m'étais réveillé, je me rendors. Et à ce moment-là, je vois, j'avais fait beaucoup de cascades de glace avec des stagiaires, on apprend de ce cours en montagne, comme des ruisseaux, et gelés, tu vois, quand ça gèle très fort. Et donc, on monte 200, 300 mètres de. Bon, on apprend à faire des manœuvres de corde, des techniques d'alpinisme. Et souvent, dans les cascades de glace, c'est des ruisseaux gelés, bon, c'est grand comme d'ici au plus vite. Tiens, de temps en temps, une pierre qui pointe, tu vois, un truc. Alors, si tu n'as pas de crampons ou quoi, tu vas essayer d'aller de pierre en pierre. Et là, je me réveille, je suis dans une cascade de glace, je suis tout seul, je n'ai pas d'accoutrement d'alpiniste ou quoi. Et j'essaye d'aller sur l'autre rive, comme d'ici la fenêtre. Et puis, alors, devant moi, au-dessus de moi, il y a un gouffre. En bas, je vois que c'est un gouffre. Il y a aussi un grand mur de cascade. Bon, il faut que je passe là. Je repère deux, trois cailloux pour essayer de ne pas me casser la figure. Je n'ai pas de crampons, je n'ai rien. Hein. Et puis, pendant que je suis là, je ne comprends pas toi, hein, pendant que je suis là, j'essaie de m'appuyer sur les rochers qu'il y a, etc., pour atteindre. Je n'ai pas envie de zip et partir à plat ventre sur le dos. En bas, c'est un gouffre. Hein. J'entends. Il a tout cassé, purée, je suis glacé. Un mec, il passe à côté de moi, il vient d'en haut, il vole, il n'y a pas d'accoutrement, il tombe en bas, purée, je suis glacé de terreur et de peur. Qu'est-ce qui m'arrive? D'abord, il aurait pu me disjoncter. Oh là, je commence à m'abaisser, je commence à m'accrocher au caillou. Un deuxième qui passe et tout, purée, je suis glacé. Écoutez, je me suis réveillé, même la culotte, excusez-moi des détails, ça m'a marqué à vie, elle était trempée de sueur froide que je me suis fait. Je m'appuyais sur le rocher, appuie-toi toujours sur le rocher, je n'avais pas tout compris dans la vision. Accroche-toi au rocher, là, parce que ça va dégringoler de tous les côtés. Dieu ne veut pas que le méchant y meure, il veut qu'il se repente et qu'il soit sauvé. Moi, j'étais là, j'étais incapable de les sauver, de les rattraper, purée, ça descendait dans le gouffre à toute vitesse. Je ne suis même pas arrivé à l'autre bord. Ma vie, je me suis réveillé de terreur, j'étais encore mieux. Cela m'a dit, t'as compris? Vous comprenez pourquoi j'ai ce cœur pour les perdus et que j'aime, et que je pleure, comme je disais à vos bien-aimés. Je pleure. Heureusement, cette chère sœur Yvette m'a relevé, le Seigneur m'a relevé dimanche aussi, je lui ai expliqué. Vous n'êtes pas responsable de la récolte, vous êtes responsable. Et quand je vois l'énergie qu'on s'est donnée, vous, nous, ça, des fois le diable m'attaque aussi, vous savez, je suis un homme comme vous. T'as vu tous les efforts que t'as fait, tout j'ai fait. Mais t'as vu le nombre de perdus. C'est la montagne qui a accouché de la souris. Vous savez. Tu te dis, mais j'ai du mal m'y prendre, je n'ai pas dû su faire, etc. etc. Hein. Et bien arrêtez de culpabiliser, moi, je vais vous dire quelque chose.